Vous êtes sur RTL. Calpro sur RTL.
Et merci à Christelle Rubière. Je vous rappelle donc que hier, le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette, a annoncé la mise en examen du principal suspect de l'agression du photojournaliste Christian Lantanois, qui se bat toujours pour vivre. Ce suspect s'appelle Anes Saïd Kebeb. Il est algérien, il a 21 ans, il réside à Reims. Depuis 3 ans, il a été mis en examen pour tentative de meurtre aggravé. Il a été placé en détention provisoire et il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et on l'a appris dans cette conférence de presse, il avait déjà été condamné à 8 reprises. Il est sur le sol français avec une carte de séjour espagnole, ce qui lui permet de rester sur le sol français avec les accords de Schengen. Marc, qui est donc policier et qui réagit.
Oui, écoutez Pascal, c'est simplement en fait une affaire tout simplement, on va dire, presque banale malheureusement. C'est une personne qui est condamnée à 8 reprises, donc il est condamné, mais il y a des manques de place en prison, donc en fait on n'applique pas les peines. Et dès lors qu'en France vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme, vous ne les faites pas, tout simplement.
Mais en plus, il n'est pas de nationalité française, donc ce que je ne sais pas, pour tout vous dire, parce que les règles ne sont pas forcément très claires, c'est est-ce que cet homme aurait pu être reconduit à la frontière ? Il avait donc, je le rappelle, une carte de séjour espagnole. Est-ce qu'il peut être renvoyé en Algérie ? Là-dessus, tous les juristes que j'ai pu interroger ne disent pas la même chose.
Le souci, c'est que sa carte, il est en situation régulière. Donc, tant qu'il ne fait pas de faute, de crime ou de délit qui soit une cause pour être... pour troubler l'ordre public de manière vraiment grave, il y a absolument aucune raison de le...
Mais il avait été condamné quand même pour des faits de violence en réunion et des vols avec effraction.
Oui, mais vol avec effraction ou violence en réunion... Vous savez, le problème d'un vol de violence en réunion, par exemple, et là, c'est pas pour dédouaner la justice, mais c'est simplement pour faire le lien. Lorsque vous êtes confronté à ça, moi, en tant qu'officier de police judiciaire, puisque c'est mon travail, il est très très difficile de déterminer quelle action des personnes qui ont frappé la victime et qui ont déterminé en fait une blessure, ce qu'on appelle nous une ITT, une interruption temporaire de travail. De manière ferme et définitive. Et lorsque nous, on présente ces gens-là, qu'on les défère devant la justice, le travail du procureur ou du juge d'instruction, peu importe, c'est lui de déterminer exactement quelle peine il va pouvoir adapter à chaque personne qu'il aura en face de lui, puisque la peine est individuelle. Donc, vous pouvez avoir une scène comme celle qu'a eu le pauvre Yuri sur la dalle de Beaugrenelle, qui se fait massacrer par 7-8 personnes, mais il faut pouvoir déterminer qui a donné un coup, à quel moment, et qu'est-ce que ça a pu entraîner.
Ce qui est d'ailleurs tout à fait logique du point de vue juridique. Alors, je rappelle également que l'agression ultra-violente s'est déroulée le samedi 27 février dans l'après-midi, en l'espace de 57 secondes, sur le parking de la médiathèque du quartier Croix-Rouge à Reims. C'était peu après 15 heures, alors que le photojournaliste de l'Union Lardonnais tentait de prendre des clichés d'un groupe de jeunes qui se préparait manifestement à en découdre avec d'autres jeunes. Il a été repéré par plusieurs individus. Et Christian Lantenois a alors tenté de réintégrer l'habitacle de son véhicule, mais il n'en a pas eu le temps et un jeune homme s'est précipité vers lui, l'a frappé à coups de poing, puis avec son propre appareil photo, et a sans doute d'ailleurs, ce qu'expliquait hier le procureur, a sans doute pris la carte qui prend des photos, parce qu'elle n'a pas été retrouvée dans son appareil photo.
Oui, mais ça c'est le principe même d'une appartenance à un quartier. Quand vous êtes dans un quartier, en fait, vous faites appliquer les lois du quartier. Une personne est là, elle n'a rien à y faire. Il me semble que la personne en plus avait une voiture avec le logo du genre.
Exactement.
Sur la voiture.
Lardonnais, exactement.
Donc il était repérable, il n'y avait pas de souci et tout. Donc en fait, c'est une personne qui est à l'intérieur du quartier, qui n'a rien à y faire, il n'a pas été convié. Il fait une action qui déplaît aux gens, donc la sanction tombe immédiatement. Et pour ces gens-là, en fait, rien de bien extravagant. Il n'y a pas de souci. Peu importe.
Alors, voilà. Pour avoir eu Sébastien Lacroix, qui est l'un des rédacteurs en chef de l'Union de Reims et qui a témoigné d'ailleurs sur plusieurs médias, il rapporte qu'on ne peut plus aller précisément dans ce quartier de la Croix-Rouge à Reims. Que c'est très compliqué d'envoyer des journalistes, parce qu'effectivement, les journalistes ne peuvent pas travailler, ils sont immédiatement repérés, et on ne souhaite pas que les informations qui s'y passent, ou les faits qui s'y passent, soient retranscrits, en l'occurrence, dans le journal L'Union.
Oui, bah c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Vous savez, ces gens-là ont une appartenance à un quartier, à un territoire, ils le défendent, ils y appliquent leurs lois et leurs règlements, et personne ne doit entraver cette marche-là. Ils sont solidaires de ce qui se passe, et ce qui se passe chez eux doit rester chez eux. Ils ne se sentent plus, ils ont plus les lois de la République qui s'appliquent pour eux. En fait, pour eux, c'est totalement dépassé. Et ces gens-là, en fait, sont libres d'agir comme bon leur semble.
Merci Marc. Je rappelle que vous étiez intervenu la semaine dernière après les rivalités entre bandes et que vous nous aviez rapporté votre quotidien qu'on avait tous trouvé effrayant, et notamment les jeunes qui se retrouvent en face de vous parfois en garde à vue et qui manifestement ne comprennent pas toujours ce qu'ils ont fait, et avec une autorité qui passe mal et qui au fond parfois même vous menace. Donc ça nous avait particulièrement surpris ou pas d'ailleurs, votre témoignage. Merci Marc. On marque une pause. Je salue Greg Caradoni qui est là. On va continuer de parler évidemment de ce sujet qui vous fait fortement réagir au 3210. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud.
Ce jeune homme de 21 ans mis en examen et qui avait déjà été condamné à 8 reprises, Laurent Tessier, c'est ce qui fait réagir les auditeurs.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous l'avez dit, le suspect de nationalité algérienne déjà été condamné à 8 reprises entre 2018 et 2019. Mathieu Bourrette est le procureur de la République de Reims.
La personne interpellée est connue pour des faits de violence, de vol aggravé et d'usage de produits stupéfiants. Déjà incarcéré à Reims, qui a été extrêmement énervé pendant tout son temps de garde à vue et qui a passé une grande partie de son temps à refuser même d'être extrait de sa cellule.
Alors comment un homme condamné à 8 reprises peut-il encore être libre? Et bien comme d'habitude, soupire Bruno sur la page Facebook de l'émission, une personne connue des services, et on en arrive à un acte immonde, c'est lamentable. Marie-Jo s'interroge, comment faire confiance en la justice? Je ne comprends pas, réagit Frédéric sur nos réseaux sociaux. On attendait quoi pour prendre des mesures plus fermes? Comment est-il encore dehors? S'énerve Eric, la justice est responsable. Et pour David, à toutes celles et tous ceux qui en doutaient encore, oui, notre pays va très mal.
Alors ce qui est intéressant avec ces faits divers, c'est qu'on apprend plein de choses. Peut-être ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais vous avez une carte de séjour d'un pays de l'Union européenne et vous pouvez vous balader dans tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce jeune homme avait une carte de séjour espagnole et il a le droit d'être en France. Donc c'est l'Europe, me direz-vous. Mais effectivement, si j'étais la famille de Christian Lantenois, je trouverais que l'État ne me protège peut-être pas suffisamment, puisque cet homme, je le répète, a été condamné à 8 reprises. David est avec nous. Bonjour, David.
Bonjour, Pascal.
Et merci d'intervenir.
Merci encore à vous de m'accueillir.
Je vous en prie.
C'est quelque chose qui devient banal de plus en plus. Et quand on écoute le premier auditeur, eh bien, on se rend compte quand même qu'il est policier. Et lui-même lui dit que ça vient banal, que de toute façon, qu'il n'y a rien qui l'étonne. Que maintenant, en France, il y a des zones de non-droit. Et que de toute façon, ben, même la police ne peut pas y aller, les journalistes ne peuvent pas y aller. Donc c'est l'anarchie totale. C'est tout simplement, les gens sont livrés à eux-mêmes, ils font leur petit trafic, ils font leur petite vie, et on ne dit rien. Moi, je ne comprends pas que M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, dise « la France n'est pas un coupe-gorge ». Là, ça va faire 2 semaines. Eh ben, c'est plus un coupe-gorge, c'est carrément la guerre civile en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en France? On fait, mais que fait la police? Que fait la justice? Ils ont beau se montrer tous les jours dans les journaux télévisés, avoir des interviews. Ils font quoi? Vous savez, s'il n'y a pas de résultat, il va falloir quand même qu'il y a des gens qui prennent des décisions et disent, bon, bah, t'es pas bon, tu t'en vas, on va trouver un
remplaçant. Non, mais c'est difficile parce qu'il y a des quartiers dans lesquels vous n'entrez pas. Je rappelle ce que disait Monsieur Lacroix, il ne peut pas envoyer de journaliste.
Bon. Ben oui, mais vous pouvez envoyer de journalistes, vous pouvez pas envoyer de gendarmes, vous pouvez pas envoyer. Vous envoyez qui?
Ben vous n'envoyez personne. Vous n'envoyez pas les forces de l'ordre, mais on le sait. Ce sont des territoires perdus de la République. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas nouveau. On va rien inventer.
Non, c'est pas nouveau. Non, mais il faut faire quoi? On continue comme ça?
Mais après, chacun a des solutions. Parfois, certains proposent des solutions radicales. D'autres essayent de.
Je vais en revenir, mais là. En 2022, là, bientôt, il y aura des élections. Là, c'est une autoroute pour quelqu'un. Hein.
Non, mais ce qui est dommage, c'est que c'est toujours une minorité de personnes qui tiennent les quartiers. D'abord, les premières victimes, mais il faut le dire, ce sont les habitants qui habitent précisément dans ces quartiers. La vérité.
Il y a des RG en France.
Oui.
Il y a les renseignements généraux. Ils savent exactement ce qui va se passer. Mmh. Ils savent exactement qui sont les têtes, qui sont
les... Oui, mais encore faut-il des éléments pour... C'est ce que disait Marc tout de suite. La difficulté, c'est de trouver des éléments qui te permettent de mettre en examen ou de mettre hors état de nuire ceux qui sont responsables de ça. Et c'est pas facile. C'est pas facile dans un état de droit.
Mais un état de droit de quoi? On est en état de droit de quoi en ce jour?
C'est-à-dire que quand tu mets en examen quelqu'un, faut des preuves. A priori, parfois, les faisceaux d'indices suffisent.
Mais des preuves qui vont durer des années, hein, parce que là, et puis pendant ce temps-là, eux, ils font leur petite vie, ils font leur petit commerce.
Mais vous avez raison. Ah, et moi, ce que je trouve toujours intéressant dans ces faits divers, c'est qu'en fait, on apprend donc que quelqu'un est en France étranger avec 8 condamnations. Mais je me dis, combien y a-t-il en France de Hannes Saïd Kebeb? Combien y en a-t-il? Il y en a des milliers. Donc là, on apprend, effectivement, il y en a un parce que il y a un fait dramatique. Parce qu'il faut penser à Monsieur Lantenois. Il est entre la vie et la mort, Monsieur Lantenois.
Je vous rejoins. Un journaliste qui va faire son boulot, eh ben, se prend son appareil photo et des coups, mais de sauvage. C'est la sauvagerie, hein, qui
bien
se
sûr.
Passe. Là, c'est plus, on se met deux coups de poing et c'est
bien
fini.
Bien sûr.
On veut en découdre. On veut tuer.
Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, tentative de meurtre aggravé.
Mais vous qui avez un petit peu, qui rencontrez un petit peu les pouvoirs politiques, ils en pensent quoi, franchement? En aparté.
Elle est drôle, votre question. Je pense qu'ils pensent comme vous. Je le répète, c'est en fait la vérité, c'est que on paye toutes les factures de 30 ans ou de 40 ans de choses qui ont été mal faites. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on va pas être caricatural. Il y a aussi de l'éducation qui a été mal faite. Il y a des transmissions qui ont été mal faites. Ça. Donc on paye toutes les factures en même temps en ce moment. Donc c'est bien.
Mais en France, on manque de tout. Vous êtes d'accord? On est une puissance. Il y a quelque temps, on était encore une grande puissance mondiale. Mmh. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de coudre deux élastiques avec un morceau de tissu. Il n'y a plus de place de prison en France. Il y a des maçons en France, hein, on peut les construire.
Parce qu'on a choisi, on a expliqué également que la prison c'était mal. C'est une idéologie. Depuis 30 ans, on ne construit pas peu de prisons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois que c'est François Hollande, il y avait un projet de prison, il les avait arrêtés. Donc allez demander à François Hollande ce qu'il en pense.
Oh, monsieur Hollande, il a fait des choses, mais pas grand-chose. Hein.
C'est une formule qui est... Éditorialement, c'est intéressant. Il a fait des choses, mais pas grand-chose. Merci en tout cas, David, parce qu'on va marquer une nouvelle pause.
Je vous remercie, Pascal.
À
bientôt.
Écoutez, il y a d'autres sujets, de toute façon, aujourd'hui, qui sont à la une. Il y a évidemment le Covid, les agglomérations de Nice et Dunkerque. On a le sentiment que le président de la République quand même se bat parfois contre ses ministres, contre son administration, contre des médecins également, pour imposer le non-reconfinement. Vous pourrez réagir là-dessus. Nicolas Sarkozy, bien sûr, qui a dénoncé hier soir une injustice profonde. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis la petite phrase de Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football. Il était interrogé sur les tensions entre la sélectionneur Corinne Diacre et certaines joueuses. Et qu'a-t-il dit? Aucun match perdu, voilà ce que je retiens. Donc elles peuvent se tirer les cheveux. Ça m'est égal, Greg Caradoni.
Vous dites ça parce que j'ai les cheveux un peu longs?
Non, mais on ne dit pas ça en 2021. Non. On ne dit pas, elles peuvent bien se tirer les cheveux, ça m'est égal. En même temps, ce n'est pas le drame, mais ce n'est pas malin quand même. Vous ne diriez pas ça, vous ?
Oh, jamais de la vie.
13h19, la pub.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
L'affaire de Reims qui vous fait réagir. Nous sommes avec Martial.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors,
quel est votre sentiment ? Est-ce qu'il va être différent des deux premiers auditeurs ?
Oh non, je pense que je vais renforcer encore les deux premiers. C'est où va donc cette République ? Quelqu'un disait l'échec n'est pas une option. Quand je vous écoute, parfois je me sens résigné. On ne peut plus rien faire.
Ah, vous trouvez que je suis résigné ?
Ah, je trouve que parfois vous avez une façon d'aborder les choses d'une manière, ben on peut plus rien faire, c'est comme ça, etc. Vous, enfin, notre République, vous vous rendez compte que dans certains endroits, la République ne peut même plus faire appliquer ses lois ? Enfin, où on en est là ?
Mais moi, je ne suis pas résigné, je dis qu'aucune politique pénale n'a été menée en France depuis 30 ou 40 ans qui soit efficace sur ces sujets-là. Voilà. Je ne suis pas résigné, je constate comme vous qu'aucune politique cohérente et à long terme, centralisé, n'a été mené depuis 40 ans. Alors, donc il y a des solutions, il y a d'autres pays, ces solutions passent par de la répression. Et en France, l'idéologie n'est pas la répression.
Bah, peut-être qu'il faudrait changer ces idéologies. Peut-être qu'il faut arrêter de faire croire que le pays des libertés consent toutes les libertés et que normalement, tout à chacun, nous avons des règles. Nous sommes dans une société qui édicte ces règles et on doit suivre ces dernières dans les meilleures façon possible. Et je suis assez étonné que à chaque fois, on déresponsabilise les gens, les pauvres petits, l'environnement, etc. Mais à un moment donné, stop, quoi. Stop. Parce que notre pays part à volo. Enfin, je sais pas.
Bah, c'est, en tout cas, ça reste des cas, évidemment, tout à fait isolés. Mais c'est ça qui est le plus intéressant à noter, c'est que les premières victimes, il faut le répéter, ce sont les gens qui habitent dans ces quartiers.
Je suis d'accord avec vous.
Qui, dans une très grande majorité, souhaiteraient vivre normalement, paisiblement, mais qui tombent sous le coup des petits caïds ou des grands caïds d'ailleurs.
Alors, comment se fait-il qu'avec les forces de l'ordre que nous avons, avec les moyens que nous avons, puisque nous passons pour une grande puissance,
eh bien, parce que nous ne savons pas répondre. Nous ne savons pas répondre. Nous ne savons pas répondre. C'est pas simple.
Il y a une chose qui était très bien faite, c'était la police de proximité que M. Sarkozy a retirée. Ce qui est dommage, c'est que ça permettait de calmer les choses et d'avoir plus d'informations. Aujourd'hui, vous êtes en train de me parler de zones au sein de la France, de quartiers dans lesquels les gens aimeraient vivre en toute sécurité, de non-droit.
Mais oui, mais on découvre le Pérou à Orléans, Martial.
Ah, mais moi, je ne le découvre pas, mon beau monsieur, je le vois tous les jours. Mais...
je veux dire, parlez aux profs, parlez aux gens qui sont en contact, parlez aux éducateurs sportifs parfois, parlez aux gens qui sont en contact de ces quartiers et écoutez ce qu'ils disent.
Mais j'ai bien entendu le témoignage du précédent auditeur qui faisait part de la réalité du terrain.
Bah bien sûr, Marc, c'était passionnant ce qu'il disait. Vous avez parfaitement raison. C'est un témoignage, c'est un policier. Moi, je n'y suis pas sur le terrain. J'écoute simplement les témoignages.
Tout à fait, c'est la vraie vie. Mais la question...
Et elle est niée parfois. En tout cas, elle n'est plus niée. Alors, je ne sais pas si depuis 2 ans, 3 ans, je n'en sais rien précisément. Mais elle a été niée pendant 20 ans. Ça n'existe pas. Lorsqu'on disait, il se passe ça, ça n'existe pas. Vous faites le jeu du Front National. Voilà ce qu'on a entendu pendant 20 ans.
Et surtout, c'est qu'en ce moment, on regarde les différentes actualités qui sont récurrentes maintenant. Les jeunes gens se font poignarder, etc. etc. Et on n'ose pas tout le temps dire le nom. Là, on a dit le nom de quelqu'un qui était algérien, etc. Et globalement, c'est toujours un petit peu masqué. Il serait peut-être temps de dire les choses vraiment.
Là, elles sont dites en l'espèce. Patrick est là aussi, qui est enseignant. Ça va être intéressant. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Écoutez, moi, je téléphone de Suisse et puis je peux comparer.
Vous habitez en Suisse ?
Comment ?
Vous habitez en Suisse ?
J'habite en Suisse, voilà. Et puis bon, je peux comparer un peu la situation. Et c'est vrai que c'est inquiétant ce qui se passe en France. Et je trouve qu'effectivement, on a tourné autour du pot et que le problème de l'immigration, effectivement, est un problème très, très sérieux. Et en même temps, c'est clair qu'il ne faut pas mépriser les gens, il faut faire attention, ça je comprends bien. Mais par rapport à ce qui se passe en Suisse, vous avez les gens qui rentrent en Suisse, 80% même plus, c'est pour l'économie. amis, et c'est pas des réfugiés politiques, ça existe aussi, mais les gens, il y a tout un parcours avec des permis qu'il faut obtenir, et il va falloir qu'ils attendent au moins 5 ans pour avoir un permis C, et être à peu près tranquille. C'est-à-dire que sans ce permis, dès que vous rentrez, vous avez un permis, et sans ça, vous ne pouvez pas être assuré, vous pouvez pas travailler, vous pouvez rien faire. Et moi, ça m'avait, ma femme qui est suisse m'avait dit une fois, mais elle était choquée de voir qu'en France, on pouvait rentrer sans être contrôlé, sans être enregistré, mais rien. Et d'ailleurs, on m'avait dit qu'en Seine-Saint-Denis, on ne connaissait même pas le nombre d'habitants exact, parce qu'il y a tellement de gens qui sont non enregistrés et qui vivent dont on ne sait pas, enfin, qu'on ne sait pas comment. Donc effectivement, moi, je pense que tout ça... ça crée un climat malsain et quelque chose qui est disharmonieux, enfin qui n'est. Et moi je vois aussi qui est très important en Suisse, c'est la diversité de l'immigration. Ils font très très attention à ce qui est vraiment une variété. Alors qu'en France, c'est vraiment, vous avez des quartiers entiers maghrébins, et vous avez, moi ça m'est, enfin j'avais entendu ça à Mulhouse par exemple, vous avez dans certains quartiers, vous entendez parler plus arabe. Et alors c'est pas, j'ai rien contre l'arabe, mais le truc c'est que moi ici j'ai dans mon quartier, ben j'ai des japonais, hollandais, énormément d'italiens,
alors
des
albanais. C'est vrai que c'est l'histoire de France. C'est vrai que bien souvent les pères ou les grands-parents de ceux qui sont arrivés dans ces quartiers dans les années 60, 70 parfois, c'était une immigration pour venir travailler et que voilà, il y a aussi des raisons historiques, économiques à cela, hein, bien évidemment.
Voilà, mais on avait des vagues, alors que là maintenant c'est un flux.
Oui, alors, c'est un flux...
Mais oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas de variété, pas de variété.
Oui, il n'y a pas de variété. Le terme est un petit peu trivial. Nous parlons d'hommes et de femmes, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas...
trivial, c'est pas... Il n'y a rien
Mais c'est vrai qu'il y a eu concentration de même population, parfois, d'origine ethnique identique, dans des quartiers, et que l'urbanisation n'a pas facilité les choses, et qu'on a créé des ghettos. Pour faire court.
Mais oui, mais c'est très mauvais. Quand vous avez une classe de personnes avec une seule nationalité, par exemple.
Oui, mais ils sont français pour beaucoup, hein, parfois. Il y a beaucoup de gens qui sont français, qui sont nés en France, d'ailleurs.
Alors
oui.
Justement, moi, par exemple, en Suisse, quand on avait interdit certaines zones, certaines piscines interdites autour de Français, moi, je trouvais ça quand même incroyable. Mm. Et on nous avait dit, c'est des Français de passeport, quoi. On peut pas, ils viennent de zones. Alors évidemment, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais vous, à un moment donné, quand on n'a aucun contrôle, mais zéro contrôle, vous créez des problèmes d'une anarchie totale. Et je pense que, alors, on a peur d'une pseudo-extrême droite, mais le danger vient effectivement. On a parlé d'islamo-gauchisme, il y a aussi, tout ça c'est lié en fait, hein. Vous commencez à tirer un petit peu le fil de la pelote, et puis tout vient en même temps. C'est-à-dire qu'il y a ces problèmes de violence, d'islamo-gauchisme,
cas, ça sera un des thèmes centrales, disons-le, ou un des thèmes centraux de la prochaine présidentielle. Ça c'est sûr que il y aura le Covid, bien sûr, il y aura la situation économique, mais ce thème-là de la sécurité des Français, on le voit bien aujourd'hui, sera un thème au cœur de la campagne électorale. Merci beaucoup Patrick. On va refermer ce chapitre Reims et nous allons être avec Jérôme Marty, que vous connaissez, et on va lui demander s'il est pour ou contre la vaccination obligatoire des soignants, puisque ce serait une idée du président de la République. Rien n'est décidé, nous dit-on, mais pour l'instant, c'est une piste qui est en débat. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier est toujours là.
Emmanuel Macron veut rendre, selon Les Échos, la vaccination obligatoire pour les personnels soignants dans les hôpitaux et les EHPAD. Le président l'a demandé hier en conseil de défense. C'est une piste en débat. Rien n'est décidé pour l'instant, nous indique l'entourage du président. Alors, qu'en pensez-vous? Faut-il rendre obligatoire la vaccination pour les soignants? 32-10. Après les agglomérations de Nice et Dunkerque, le Pas-de-Calais sera confiné le week-end, en plus du couvre-feu la semaine. Vous habitez le département. Comment réagissez-vous à Saint-Omer? Cette habitante rencontrée par Franck Hanson le vit mal.
Pour regarder ce qui se passe à Paris, sur les quais de Seine, je trouve ça insupportable, alors que nous, on est en race campagne, on habite au milieu des champs, on doit porter les masques dans le village. On vous laisse le droit d'aller travailler, on leur oblige d'aller à l'école, d'être dans un bouillon de culture, et à côté de ça, le week-end, on nous enlève tous nos plaisirs. Plus de sorties, juste bon à bosser.
Paris et sa région échappent au confinement. Y a-t-il pour vous deux poids, deux mesures entre le Pas-de-Calais, notamment l'Île-de-France? Le Premier ministre Jean Castex donnera une conférence de presse à 18h. Et le confinement local est inhumain pour certains, pas pour d'autres apparemment, critique Daniel sur la page Facebook de l'émission. Des décisions incohérentes pour Katia. Les Parisiens vont continuer de se regrouper, s'agglutiner, s'énerve Jacqueline, habitante du Pas-de-Calais. Et Benoît pousse un coup de gueule. Nous sommes cette semaine le seul département à passer en confinement local le week-end. Oui, il y a deux poids, deux mesures en France.
Et nous sommes avec Jérôme Marty. Bonjour Monsieur Marty, qui est président de l'Union française pour une médecine libre qu'on ne présente plus, puisque vous êtes désormais très présent dans notre univers médiatique. Emmanuel Macron imagine de rendre le vaccin obligatoire pour tous les soignants, pour ou contre?
D'abord, c'est pas si simple. On a un problème. C'est incontestable. On a trop de soignants qui ne sont pas vaccinés. Alors, quid des soignants qui refusent la vaccination? Quid des soignants qui n'ont pas pu accéder à la vaccination, puisqu'on sait qu'un certain nombre de services n'ont pas été fournis en vaccin? Il fallait que les soignants se déplacent. Et les soignants ont une profession telle que souvent, se déplacer, ça veut dire ne pas exercer pendant une demi-journée ou une journée. Et vu comme les services sont en tension, c'est difficile. Donc ça, il faut le regarder. Nous, ce que l'on a dit, c'est que peut-être fallait-il rendre obligatoire une réunion, là, tout de suite, cette semaine ou en début de semaine prochaine, dans tous les services de France, sanitaires et médico-sociaux, avec les soignants, les représentants des personnels, les chefs de service, les cadres, les directions, et on parle du vaccin et on essaye de faire tomber les doutes. Et ensuite, si ça ne marche pas, on rend obligatoire. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, rester avec une forte proportion de soignants non vaccinés, alors même que l'on est en pleine phase épidémique et de pandémie. C'est pas possible.
Il y a évidemment une question de bon sens que vous incarnez dans ce que vous venez de dire. Vous êtes vacciné vous-même?
Oui, moi j'ai été vacciné. J'ai la deuxième dose de Pfizer depuis déjà trois semaines. Mais
alors, je vois toujours quand même avec le masque un peu partout. Pourquoi vous portez le masque si vous êtes vacciné?
À double titre. D'abord, on n'est pas encore sûr que la vaccination diminue le risque de contamination, le potentiel de contamination. On sait, d'après les dernières études, qu'elle la diminue, mais qu'elle ne l'élimine pas, ce qui veut dire que quand vous êtes vacciné, vous pouvez toujours transmettre la maladie. Certes, plus faiblement, mais vous pouvez. Donc, c'est pour ça que je le porte. Et puis ensuite, vous l'avez dit, comme j'ai une position qui est un peu médiatique, le fait d'être médecin et de porter le masque, c'est
pour l'exemple. Bon, une dernière chose, et parce que vous savez, chacun a ses positions et chacun a ses avis sur sur cette épidémie. Et si vous nous suivez un peu, nous, on souhaite que rouvrir, bien souvent, en tout cas, et puis comme beaucoup de Français qui ont envie de retrouver une vie normale. Est-ce que vous n'êtes quand même pas étonné vous-même? Et prenons l'exemple simplement de la Moselle. Il y a 8 jours, le maire de Metz demande à ce qu'on ferme sa ville et qu'on ferme le département. Il y a un taux d'incidence qui, à ce moment-là, est au-delà de 300. Pour des raisons que personne ne connaît, 6 jours plus tard, alors qu'on annonçait l'explosion des cas, le taux d'incidence, et c'est un bon exemple, la Moselle, mais je pourrais dire la même chose pour les Alpes-Maritimes ou les Bouches-du-Rhône, pour des raisons mystérieuses, est-ce le temps, est-ce le couvre-feu, est-ce que les gens font davantage attention? En tout cas, non seulement ça n'explose pas, mais les cas baissent. Ce qui fait dire que si on avait confiné, en Moselle ou dans les Bouches-du-Rhône, ben ça aurait servi à rien. Donc ouais, est-ce que ça vous étonne? C'est ça ma question.
Ça veut dire qu'avec des si, on met Paris en bouteille, etc. etc. On est devant une affection dont on ne sait pas tout. On sait que la communication et la gravité du moment est très importante. Ça renforce les gestes barrières. Les gens font beaucoup plus attention et on en paie les fruits à distance, exactement comme quand il y a un relâchement. C'est peut-être ça qui s'est passé en Moselle, c'est peut-être autre chose. Le temps, j'y crois pas trop, sauf que quand il fait beau, on est à l'extérieur et on sait tous qu'à l'extérieur, il y a beaucoup moins de risques qu'à l'intérieur pour une affection qui est une clusterémie, c'est-à-dire qui se définit et qui se développe principalement dans les murs.
Mais là encore, j'arrive pas à avoir une question simple. Est-ce qu'il y a transmission des cas à l'extérieur? Certains me disent non, il n'y a pas de transmission à l'extérieur. Et d'autres me disent oui,
non,
si vous êtes à 10 cm.
Ceux qui vous disent non se trompent. Il y a évidemment des transmissions à l'extérieur, mais c'est ce que l'on appelle des transmissions inter-individuelles. C'est d'une personne vers une autre, mais d'une personne vers un groupe, il n'y en a pas. La différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ça. C'est qu'à l'intérieur, une seule personne peut en contaminer 80. À l'extérieur, une personne en contamine une.
Bah écoutez, merci pour ces précisions.
Voilà, c'est par postillon et par toucher à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est l'aérosol. Et l'aérosol, tout le monde le respire, donc vous pouvez plomber tout le monde.
Bon, là, je suis tout seul dans le studio, je ne risque rien.
Non, tout seul, vous savez...
Et encore, je suis capable de me contaminer moi-même.
Oh, vous êtes tellement retors que c'est bien possible.
Jérôme Marty. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir régulièrement et de pouvoir échanger. Il est 13h37. Jérôme Caradenis. Oui. Vous avez trouvé la petite chanson que je vous ai demandé sur le docteur ?
Non, pas encore.
Mais vous connaissiez pas cette chanson de Sheila ?
De Sheila, non.
C'est le cœur, les ordres du docteur sont qu'il me faut tes bras. Vous connaissez pas cette petite chanson de Sheila ?
Non, mais une nouvelle fois, en fait, je vois pas l'intérêt de sortir la chanson puisque vous la chantez si bien.
Il y en a pas. C'était le plaisir de chanter. 13h38. À tout de suite et on va parler vaccin.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier. Nous vous attendons sur d'autres sujets au 32-10. Nicolas Sarkozy a dénoncé hier soir une injustice profonde. L'ancien chef de l'État refuse de parler de justice politique après sa condamnation à un an de prison ferme. Il était l'invité du 20h de TF1.
On me condamne à 3 ans de prison parce qu'on me prête la volonté d'avoir eu la volonté de rendre service à l'ami d'un ami tout en reconnaissant que je ne l'ai pas fait. Tout ça en écoutant 4500 de mes dernières conversations téléphoniques, en les découpant avec des ciseaux, en les mettant bout à bout pour me condamner. C'est une injustice.
Je n'ai rien à cacher, j'irai jusqu'au bout, la vérité éclatera, répétait Nicolas Sarkozy. Êtes-vous convaincu par ces propos ? Parlez-vous d'acharnement ? Eh bien, la justice a été à la hauteur, elle a parlé, point barre, écrit Yves sur nos réseaux sociaux. Ils ont réussi à voir sa peau, s'énerve Sylvie. Et vous, qu'en pensez-vous ? 32-10. C'est une phrase qui fait parler. Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a réagi hier à une question sur l'équipe de France féminine. Le sujet, les tensions entre la sélectionneur Corinne Diacre et certaines joueuses, tendez bien l'oreille.
Aucun match perdu. Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal.
Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. Ce commentaire fait-il bondir de votre chaise ? Comprenez-vous cette polémique ?
Je trouve ça incroyable. D'abord, c'est pas un drame, mais je trouve ça incroyable. Et puis la manière dont il le dit. Vous voyez, la couleur, la forme, la manière dont il le dit, c'est quand même. Voilà. Tiens, on le réécoute pour. Écoutons.
Aucun match perdu. Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal.
C'est un homme du passé, pour le coup. Il a une manière de parler quand même plus
donnez-nous
personne.
Donnez-nous votre avis au 32-10, on vous attend.
Ah oui. Bon, Aurélie est là. Aurélie sur le vaccin. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Faut-il rendre le vaccin obligatoire pour les soignants ? C'est ça la question.
Oui, alors j'ai la même vision que le docteur Jérôme Marty. Un peu avec de la nuance, je pense que la forte proportion de soignants non vaccinés à ce jour n'est pas due qu'à un refus. Il est dû aussi à la non-disponibilité des vaccins dans les centres hospitaliers. On a privilégié certains hôpitaux, certains services. Et si aujourd'hui la proportion de soignants vaccinés est faible, c'est parce que la disponibilité des vaccins n'est pas là. Donc maintenant, si l'État...
Non, mais ce qui nous intéresse, c'est la question théorique, pour tout vous dire. Si les soignants avaient accès aux vaccins, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire pour eux ? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des soignants qui sont réticents.
Oui.
Mais vous êtes infirmière, vous le constatez ou pas ?
Ah bah, je constate que oui, il y a des personnes qui sont réticentes aux vaccins, qu'il y a des soignants qui sont réticentes aux vaccins. Après, moi, je comprends tout à fait le caractère obligatoire de ce vaccin et je l'approuve. Attention à la présentation, à comment ça va être présenté, comment ça va être amené, cette obligation. Pour pas que les syndicats, pour pas que ça engendre plus de refus qu'il y aurait eu si les vaccins sont juste disponibles.
Je suis d'accord avec vous, mais ce que disait Jérôme Marty s'entend, c'est une question de bon sens.
Ben oui, c'est ça.
Le Covid, c'est paraît-il la première maladie nosocomiale aujourd'hui à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entrent à l'hôpital pour se faire opérer de quelque chose et qui ressortent avec le Covid et qui parfois en meurent. Lorsqu'ils ont un certain âge.
Et l'hôpital en est conscient, puisque maintenant les protocoles sont nouveaux là. Un test PCR à l'entrée et un test PCR à la sortie. Donc oui, c'est sûr hein, que ça devient maladie, parce que bien souvent les soignants sont des personnes jeunes. Sans autre pathologie et que du coup elles peuvent tout à fait être porteuses. Porte saine et avec les variants, ça se transmet très facilement malgré les gestes barrières. Et Donc, si la vaccination peut permettre d'être un peu moins contaminant, bah oui, allons-y, rendons-le obligatoire, s'il faut en passer par là.
Céline est là aussi, Aurélie. Céline est là, elle est infirmière comme vous et j'ai l'impression qu'elle ne partage pas votre avis. Bonjour Céline.
Oui, bonjour Pascal, bonjour Aurélie.
Alors,
oui, bonjour. Alors, effectivement, moi, je pense qu'effectivement, il faut que les soignants prennent conscience d'eux-mêmes de l'intérêt de cette vaccination. En revanche, je pense que dans le climat de défiance actuel, ils seraient complètement inconscients de l'imposer.
Qu'est-ce que vous appelez climat de défiance? Défiance de quoi?
Défiance vis-à-vis des politiques. Le climat général,
Mais quel est le rapport? L'important, c'est le vaccin, c'est pas la défiance des politiques. S'il y avait une défiance sur le vaccin, je pourrais vous comprendre, mais quel est le rapport avec la défiance des politiques?
Je pense qu'en fait, il y aurait une confusion, justement, entre le vaccin et le fait que ça soit rendu obligatoire. Je suis persuadée que ça serait mal accepté par la plupart des soignants.
Ah bon? Mais vous êtes vaccinée, par exemple, Céline?
Moi, je suis favorable, je souhaite me faire vacciner. Je devais me faire vacciner vendredi dernier. Or, il se trouve que mes collègues, alors j'en ai 5 qui l'ont déjà fait, sur les 5, 4 ont été en arrêt maladie 3 jours après le vaccin. Et comme je devais travailler le week-end dernier, j'ai pas pris le risque parce que on était en effectif restreint et que... Et heureusement que j'étais présente parce qu'on a une forte activité. Mais du coup, se pose cette question-là aussi. Du coup, je calcule pour me faire vacciner la veille d'un ou de deux repos pour éviter de ne pas pénaliser mon service.
Bien sûr.
Et cette donnée-là, elle est à prendre en compte aussi. J'entends certains, et je lis certains soignants qui réfléchissent à ça. Oui, je veux me faire vacciner, c'est un avis général. Mais attention, je sais que derrière, je risque fort probablement d'être en arrêt maladie quelques jours. Et donc, du coup, les soignants calculent...
Quelques jours, peut-être pas, quand même.
En tout cas...
Vous avez des amis, par exemple, qui ont été vaccinés, qui ont été en arrêt maladie plusieurs jours?
Oui, j'ai...
C'est passé à l'hôpital de Morlaix.
J'ai pas entendu, Aurélie, ce que vous avez dit.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital de Morlaix?
Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital de Morlaix?
Oui, qui a vacciné massivement avec AstraZeneca au tout début, là. Et ils ont eu une vague d'arrêt maladie de 24-48 heures, mais ça peut mettre un...
Ouais, non, 24-48 heures, j'avais entendu, mais j'avais pas entendu plusieurs jours. C'est pour ça que je reprenais Céline. Mais Céline, terminée.
24-48 heures cumulées, ça peut très très vite...
C'est ça. Et donc, en fait, moi, j'ai rappelé la médecine du travail. J'ai dit oui, je suis toujours volontaire. Mais du coup, j'ai demandé à me mettre sur liste d'attente.
Bien
sur
les
heures, du coup.
Bon, et évidemment, vous avez plus envie de vous faire vacciner avec Pfizer qu'avec AstraZeneca.
Du coup, oui. Alors, bien sûr, les effets secondaires ne sont pas systématiques. Peut-être que je pourrais passer à travers, mais c'est à prendre en compte quand même.
Bien sûr. D'autant que, paraît-il, les effets secondaires sont plus importants quand on est jeune, parce que les défenses immunitaires sont plus fortes. C'est ce que les médecins m'ont expliqué.
Voilà. Après, je ne suis pas une anti-vaccin. Bien au contraire, tous les ans, moi, je me fais vacciner contre la grippe. Donc, je suis une pro-vaccin. Il n'y a pas de souci. Je pense que dans l'ensemble, les soignants le sont. Il y aura bien sûr quelques exceptions, mais dans l'ensemble, les soignants ne sont pas anti-vaccins. C'est juste, je pense... Déjà, ces questions pratiques par rapport à une absence éventuelle donc qu'il faut prévoir, organiser. Et après, le climat de défiance générale, d'opposition politique au gouvernement actuel, qui fait qu'éventuellement, si c'était rendu obligatoire, moi, je pense que ça passerait très mal.
Merci beaucoup Céline et Aurélie, vraiment merci beaucoup pour vos deux témoignages et puis solidarité avec vous parce que vous êtes deux infirmières qui êtes sur le terrain, donc j'imagine c'est pas toujours tous les jours simple. On a reçu beaucoup d'appels lorsque j'ai évoqué la chanson de Sheila, c'est marrant d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de textos. Christian Olivier qui m'a dit c'est pas Sheila, c'est Karen Cheryl. J'ai reçu également monsieur Bernard Renault, un journaliste de TF1 qui m'a dit c'est Dorothée qui chante ça. Donc tout le monde a son avis. Greg, alors, avez-vous des informations?
Moi j'ai deux informations. J'ai une chanson de Karen Cheryl qui s'appelle Docteur Menteur qui fait ça.
Docteur Menteur, tu ne me... Ah oui, c'est pas toujours la même chose.
C'est pas celle que vous chantiez.
Non.
Alors sinon j'ai en effet Sheila, une chanson qui s'appelle C'est le cœur.
C'est le cœur, les ordres du docteur. Voilà, ça c'était un tube dans les années 70. Mais bon, Je sais que l'ami Christian est... Et le président du fan club de Karine Cheryl, il a sans doute voulu placer Karine Cheryl et dont il a tous les disques chez lui, ce qui est bien normal.
Bien sûr.
Dans son garage, avec ses livres. Parce que vous savez que Christian met ses livres dans son garage.
Ah, je l'ignorais.
Ah si, il met son livre dans son garage.
Parce qu'il les lit dans son garage ?
Je ne sais pas.
En écoutant du Karine Cheryl dans son garage.
Écoutant.
Il va encore arriver en studio là.
Sur sa nouvelle télé.
Car il a une nouvelle télé.
Ah, il a une nouvelle télévision.
On saura tout.
Il a mis quelques semaines pour apprendre bien le fonctionnement, parce que c'est pas facile les nouvelles télés, mais tout va bien. Je le salue parce que nous l'aimons, vous le savez. 13h50, à tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Les chansons des années 70 définitivement feront ma joie. Vous avez retrouvé une chanson de Dorothée avec le docteur aussi.
La chanson de Dorothée qui est extrêmement connue, qui est Docteur, bien sûr. C'est plutôt ma génération que la vôtre, mais.
Ah, c'est rigolo. Je connaissais moins cette chanson parce que je regardais moins la télé peut-être à ce moment-là. J'étais plus grand. Ça passe pour Paris et sa région, mais le Pas-de-Calais n'échappera pas au confinement le week-end face à l'épidémie de Covid-19 qui ne ralentit pas et la tension dans les hôpitaux. Le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures aujourd'hui, vous le savez. Le confinement, nous sommes avec Frédéric à Berck.
Bonjour.
Bonjour Frédéric et merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Vous êtes pour ou contre ce confinement le week-end dans le Pas-de-Calais ?
J'ai envie de dire pour, parce que étant médecin de métier, et je vais essayer de pas jouer au docteur menteur, on est quand même dans une phase de tension hospitalière qui croît énormément depuis ces dernières semaines. Et les derniers chiffres qui sont sortis avec un taux de contamination qui fait polémique en comparaison avec d'autres départements. Mais si on analyse un petit peu plus loin les chiffres, je pense que la tension hospitalière derrière nécessite et malheureusement, on ne peut pas éviter un nouveau confinement.
Un confinement le week-end.
Voilà, tout à fait.
Mais vous pensez, le médecin que vous êtes, parce que fermer pendant simplement 48 heures et puis après rouvrir le lundi, comme si le virus entre le vendredi soir et le lundi matin se mettait à l'écart. Moi, j'ai le sentiment que ça ne sert pas à grand chose, mais évidemment, c'est intuitif ce que je dis là. Je voulais votre avis.
Alors, moi, je suis bien content d'être médecin et pas politique parce que, à mon avis, les décisions, elles vont être très compliquées à prendre. Et j'imagine que les analyses de chiffres doivent être extrêmement fines. Après, oui, bien sûr, tout le monde travaille la semaine, on va faire nos courses, on voit les gens dans les supermarchés, on croise du monde. On sait, et d'ailleurs, il y a un quart d'heure, quelqu'un a rappelé sur votre antenne que les contaminations dans les lieux confinés ou les lieux de rassemblement étaient extrêmement importants. Et je pense que le week-end, les gens se rassemblent chez eux, se rassemblent dans les commerces, se rassemblent dans des lieux clos. Et plus on évitera ces rassemblements de personnes, et plus on évitera aussi d'augmenter l'incidence de ce coronavirus. Mmh.
Mais quand je citais tout à l'heure, et je repose la question que je posais au docteur Marty, vous qui êtes médecin, l'affaire de la Moselle, je trouve ça quand même extraordinaire. Le taux d'incidence a baissé en 6 jours, tu ne sais même pas pourquoi.
Mais c'est comme à Marseille. On ne s'explique pas encore pourquoi ça a baissé, alors que finalement...
Oui, mais alors dans ces cas-là, moi je me dis, ne prenons pas trop de mesures drastiques, radicales, puisque il y a des choses que tu ne maîtrises pas.
Ouais. Alors il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est vrai. En même temps, il y a des choses qui sont de la réalité de terrain, c'est la tension hospitalière.
Oui, ça nous sommes d'accord.
Ça, il faut à tout prix la contrôler.
Oui.
Bon, personnellement, moi je travaille dans un centre de rééducation où on est là pour accueillir les gens en post-Covid, mais je participe aussi encore un peu à l'activité de services d'urgence hospitalière, et je tire mon chapeau à tous les collègues qui travaillent dans des services d'urgence et de réanimation, où la tension va devenir extrême les jours prochains, et il faut par tous les moyens limiter l'augmentation de ce taux d'incidence, parce qu'on connaît les conséquences que ça va avoir sur l'activité hospitalière d'urgence, mais aussi sur toute l'activité en aval, c'est-à-dire les services conventionnels qui se transforment en unités Covid et qui doivent déprogrammer ou modifier toutes leurs activités. Et l'expérience du premier confinement montre que malheureusement, le facteur perte de chance, comme on appelle ça dans notre métier, est très grave pour certaines pathologies. Quoi.
Alors Frédéric, vous êtes donc à Berck, et oui. On va partir pour Arras. Berck-Arras, c'est combien de kilomètres ?
Il y a 100 kilomètres pour une heure et demie en voiture.
C'est dans le Pas-de-Calais également. Oui. Bonjour Jean-Paul, vous êtes coach de foot et vous en avez ras-le-bol.
Ah ben, bonjour Pascal.
Bonjour oui, Jean-Paul.
Bonjour aux médecins qui vous accompagnent. Bonjour. Oui, effectivement, sincèrement, on en a marre. On en a marre. Alors, il y a deux poids deux mesures aussi dans ce pays. Paris n'est pas confiné. A priori, la situation est aussi grave que dans le Pas-de-Calais. Mais on confine pas Paris. Tout est bloqué. Les gens sont vraiment fatigués. J'ai mon amie qui travaille au Resto du Cœur. Elle consulte, elle est consultante au Resto du Cœur. Elle reçoit des gens en difficulté et elle me dit les gens ils sont catastrophés, tétanisés, ils savent plus. On nous dit tout et son contraire. Il y a franchement, ça fait un an qu'on supporte cette situation. On nous promet, oui, ça va aller mieux. Alors ça a été mieux.
Ça va aller mieux avec la vaccination. C'est la seule chose qu'il faut se dire et c'est une vérité. Ça va aller mieux avec la vaccination, Jean-Paul.
Oui,
il y a pas de là-dessus. C'est la seule conviction qu'on peut avoir qui est certaine.
Encore faut-il qu'il y ait des vaccins.
Il y en a. Ça arrive. C'est plus lent. C'est plus difficile que dans d'autres pays. Mais au moins. Cet objectif-là, vaccination, et vaccination des gens fragiles, bien sûr. Et c'est ça qui pose problème
Il y a une parole que M. Sarkozy, hier, a dit qui était juste. C'est peut-être bien la seule parole qu'il a dit qui était juste, sans vouloir vous refaire le sujet de tout à l'heure. Mais il a dit il faut vacciner un maximum, vacciner tout le temps, vacciner jour, nuit. Alors, il a peut-être exagéré là-dessus. Mais c'est ça, il faut vacciner. C'est la seule façon où on va s'en sortir. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on attend. Il faut tout ouvrir. Il faut, les médecins, ils pleurent pour avoir des vaccins. Il y a un médecin qui est en ligne avec vous. Il peut confirmer. Il pleure pour avoir des vaccins.
Jean-Paul, restez avec nous parce qu'il va avoir le flash de 14h. Vous allez me dire d'abord, coach de foot, comment ça se passe? Parce que moi, je suis très en colère que les gosses, notamment, ne puissent plus faire de football.
Oh,
les 7
Dieu,
ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Donc, vous allez nous expliquer parce que ça m'intéresse beaucoup. Greg, Caranoni.
Oui, encore beaucoup de messages sur Sheila, non peut-être.
Oh non.
Ah non, j'ai cru. Moi-même, j'en ai reçu.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Ça fait réagir les gens, Sheila.
Incroyable.
Eh bien, vous repasserez la petite chanson. Moi, je l'aime bien, la petite chanson. Il est où, Olivier Bois?
Il est en train d'imprimer son flash et de vous retrouver.
Il serait temps qu'il l'imprime. Il est 13h58.
Mais c'est lui le temps de venir.
Olivier Bois et son épouse trinque.
Ah, il arrive. Oh, très bonne vanne.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. On va continuer la discussion avec Jean-Paul qui est coach de foot et qui va nous expliquer comment ça se passe dans le Pas-de-Calais. Mais le rappel des titres, le flash avec Olivier Bois.
Faut-il rendre le vaccin obligatoire pour les soignants? Vous en parliez tout à l'heure, Pascal. Le débat existe alors que le taux de vaccination est faible actuellement pour les professionnels. Emmanuel Macron a évoqué la question hier en Conseil des Défenses selon nos confrères des Échos. Son entourage précise que c'est une piste mais que rien n'est acté pour le moment. Le gouvernement donne donc sa conférence de presse tout à l'heure à 18h. Le Pas-de-Calais va devoir se reconfiner au moins pour les trois prochains week-ends. Normalement, l'Île-de-France y échappe pour l'instant, même si les indicateurs s'emballent, notamment en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, affirme que des doses supplémentaires de vaccins vont être livrées aux zones les plus touchées. C'est en tout cas ce qu'elle réclame. On verra tout à l'heure encore une fois les arbitrages annoncés par Jean Castex. Le Conseil d'État estime qu'il est disproportionné désormais d'interdire aux résidents des EHPAD de sortir de leur maison de retraite, vu le niveau de vaccination. C'est une famille qui avait porté cette question en justice. Et puis Édouard Balladur est relaxé par la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi pour les soupçons de financement de sa campagne de 1995 par des fonds occultes liés à des contrats d'armement. En revanche, François Léotard, qui était lui ministre de la Défense à l'époque, est condamné. Il va se pourvoir en cassation. Le quintet à Vincennes pour finir. Voici l'arrivée provisoire à l'instant d'ailleurs. Le 2, l'As, le 13, le 10 et le 15. Voilà pour l'info, Pascal.
Merci, cher Olivier Bois. Vous êtes un nostalgique peut-être de la période de Noël.
Vous voulez parler de mon pull encore, c'est ça?
Olivier Bois.
Vous savez qu'on a eu des relations difficiles ces derniers jours quand même. Vous devriez faire preuve de diplomatie.
Pourquoi vous portez un pull de Noël le 4 mars?
C'est parce que je l'aime, Pascal. Parce que je l'aime au-delà de la période de Noël.
Merci, à Olivier Bois. Il est 14h02.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Jean-Paul est coach de foot. Oui. Jean-Paul habite Arras. Coach de foot de quelle équipe ?
Alors, je suis coach dans un petit village qui est à côté de Arras, à Saint-Laurent-Blangy, l'étoile sportive de Saint-Laurent-Blangy, qui est le club qui a le plus grand nombre de licenciés de l'Arrajois.
Donc, il y a combien d'équipes ?
Alors, on a des équipes de U8, U9, U10, U11, jusque, on a trois équipes seniors. Oui. L'équipe première évolue en D1 et on cherche bien sûr à monter en R3. C'est extrêmement compliqué. Alors, on a une école de foot. Ouais, je salue, j'en profite pour saluer le directeur de l'école de foot qui est à l'Inouï, qui fait un travail remarquable.
Tout ça
est
à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une des équipes qui s'entraîne aujourd'hui.
Ah si, alors si, on arrive quand même, parce qu'on a deux employés, un à temps complet, un à mi-temps. On a deux éducateurs qui est en plus avec, comme je le disais, le directeur de l'école de foot. Alors si, il y a des entraînements, mais c'est extrêmement compliqué avec le couvre-feu de 18h.
Mais qui s'entraîne ? Toutes les équipes peuvent s'entraîner ?
Toutes les équipes peuvent s'entraîner, mais...
Mais il n'y a pas de compétition.
Mais réduit bien évidemment, puisqu'on est, tenu par les plages horaires, imaginez-vous.
Il n'y a pas de compétition, quand même... Jean-Paul ?
Absolument pas.
Oui, c'est ça qui est important. Donc, il y a quand même un entraînement qui est mis en place pour toutes les équipes, même les jeunes ?
Même les jeunes.
D'accord, c'est intéressant.
Oui, mais le problème aujourd'hui...
Parce que c'est pas partout pareil. Je pensais que les jeunes, souvent, ils ont du mal à s'entraîner.
Non, ils s'entraînent. Bien. Alors, évidemment, il y a une désertion quand même. Tous ne s'entraînent pas, il y en a qui viennent plus.
Bah oui, parce que de toute façon, après 18h, tu ne peux pas t'entraîner. C'est souvent après 18h que tu t'entraînais.
On essayait d'aménager avec le samedi et le dimanche. Mmh. Donc les seniors, on avait trouvé un créneau le dimanche après-midi pour s'entraîner. Aujourd'hui, on va être confiné, c'est mort, c'est fini.
Non, mais c'est terrible. Je trouve que c'est terrible. Pour le sport, c'est terrible.
Oui, non, mais on a bien compris aujourd'hui que c'est une saison blanche. On va sur une saison blanche, c'est évident. Alors, il y a d'autres problèmes, les problèmes financiers. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi on a payé une licence, on ne joue pas.
C'est combien la licence par an ?
Alors, tout dépend. Nous, chez nous, elle est à 105€ avec un maillot du club.
Ouais, donc c'est un certain prix quand même, en tout cas pour certaines personnes qui ont parfois deux enfants, ça peut être un certain prix. Merci Jean-Paul.
Deux, trois, par trois.
Vraiment, merci pour ces précisions, parce que c'est intéressant d'avoir justement des témoignages du terrain. Sur ce confinement, Christophe est avec nous. Alors, on ferait un grand vol du nord au sud, puisque nous sommes à Aix-en-Provence avec Christophe, qui est chef d'entreprise. Christophe, votre avis sur les mesures de confinement ?
Bonjour, déjà.
Bonjour, vous avez raison.
La première des choses, c'est que je ne regarde plus la télé parce que j'ai envie de la casser tellement on entend tout et n'importe quoi. Sur le vaccin, pas le vaccin, le confinement, pas le confinement. Et au final, on ne fait que tuer le peu qui reste d'économie dans ce pays. Voilà. On nous traite comme des enfants. Au final, laisser les gens décider par leur propre bon sens de s'ils veulent se confiner ou de s'ils ne veulent pas se confiner. Dimanche, je rentrais, excusez-moi, d'un endroit assez sympathique de Porquerolles. Il y avait 30 kilomètres de bouchons à 18h. Donc les gens, ils en ont ras-le-bol parce que ça fait un an qu'on nous a ni en prison, ni sous cloche, en racontant tout et son contraire. Et au final, qu'est-ce qui se passe un an après ? Est-ce que la situation a évolué favorablement ? Pas du tout.
Non, mais on vous répondra que ça serait pire si des mesures n'avaient pas été prises, j'imagine.
C'est dites-moi un pays au monde où c'est pire. C'est pareil partout. C'est pareil partout.
Oui, c'est pas pareil partout quand même. Mais
on compare les États-Unis, par exemple, où on dit il y a, j'en sais rien, 400 000 morts par rapport aux 70 ou 80 000 en France. Mais si vous ramenez ça à la population, c'est exactement la même chose. En revanche, qu'on ait parlé des vaccins depuis le mois de décembre et que deux mois et demi après, mon grand-père qui a 90 ans, on lui dit « rappelez-nous fin mars et on verra si on peut vous trouver un rendez-vous ». Vous ne trouvez pas ça honteux ? Qu'un pays comme Israël, qui a une population de 5 millions d'habitants, et donc un PIB qui est en relation, qui fait 12 fois moins que la France, soit capable de vacciner sa population, et qu'un pays comme la France, qui est la 5e ou la 6e puissance économique, ne soit pas capable de vacciner sa population. En deux mois et demi, on n'est même pas arrivé à vacciner les plus de 80 ans.
Non, mais, Moi, vous savez pourquoi ?
Aujourd'hui, Mais c'est délirant.
Mais vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi on arrive ?
Parce qu'on n'a pas voulu payer ces vaccins.
Voilà, parce que l'Europe...
On n'est pas capable de prendre une décision et on donne raison aux Brexiteurs, alors que franchement, le Brexit, c'est la plus grosse bêtise qu'on ait inventée. Et à ces gens-là, on leur donne raison parce qu'ils ont pu avoir des vaccins avant nous.
C'est 9 millions d'habitants en Israël. Hein,
enfin, 9 millions. Mais vous vous rendez compte qu'en France, la 5e ou 6e puissance économique du monde...
Oui, mais c'est l'échec. Nous sommes d'accord, oui.
C'est juste.
On a découvert, vous avez parfaitement raison. L'affaire des. C'est effrayant l'affaire des vaccins, c'est ça la vérité.
On nous a raconté des inominies sur les masques. Faut pas porter un masque, souvenez-vous.
Oui, alors ça, bon, c'était il y a un an, c'était au début. Moi, je suis assez indulgent.
Il n'y a rien qui a changé. On continue à prendre les gens pour des imbéciles et des irresponsables.
Mais alors, c'est quoi la politique alternative selon vous ?
Si j'avais géré mes entreprises comme nos gouvernants gèrent le pays actuellement, mais j'aurais fait faillite 50 fois. On est dans le pays
La politique alternative, c'est quoi ?
La politique alternative, c'est de prendre des vraies décisions.
Oui, mais lesquelles ?
Les gens adultes qui veulent se confiner, je vois ma mère qui a 75 ans, mon grand-père qui a 90 ans, d'eux-mêmes, eh ben, ils font attention à ce qu'ils font. C'est comme le code de la route. Si vous avez envie de rouler à 180 sur une route nationale verglacée, c'est tant pis pour vous. Donc si vous avez 75 ans ou plus et que vous allez vous balader ou vous voyez toutes les rues ou tous les centres commerciaux qui sont noirs de monde le week-end, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais ne sacrifiez pas la génération de nos enfants.
Israël, 53% des gens sont vaccinés. Donc ça,
Et nous, on est à combien de pourcents ? 10 fois moins ?
On est à, je crois, 4 ou 5%. L'Allemagne, aujourd'hui, l'Allemagne est à 5,29%. La France est à 4,45%. Toute l'Europe est à peu près entre 4 et 6. La Suède est à 5, par exemple. La Pologne est à 5,77%. Donc tout ça... est assez proche, mais les pays qui sont le plus vaccinés, 31% des Anglais, c'est terrible pour l'Angleterre, parce que 31% des Anglais sont vaccinés, et évidemment, si on avait voulu tuer l'Europe, on ne s'y prendrait pas autrement, parce que l'Union européenne a raté sa phase de vaccination, pour le moment en tout cas, elle n'est pas assez efficace, elle n'est pas assez rapide. Il est 14h10, nous allons peut-être parler de Nicolas Sarkozy, et que vous avez sans doute écouté hier soir. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Si vous voulez, Pascal, on peut reprendre le cours de l'émission.
Il est 14h12, effectivement. Et nous sommes avec Philippe, qui est là. Bonjour Philippe, et qui va nous parler de Nicolas Sarkozy.
Oui. Je trouve honteux qu'on le laisse s'exprimer à la télé, où il vient faire son caliméro, je suis innocent, j'ai rien fait. Je trouve honteux le comportement de la droite qui crie à la cabale politique, que voilà, c'est pas normal, que Nicolas Sarkozy c'est un bon, il mérite pas ce qui lui arrive. Je trouve honteux que les politiques ne fassent pas les peines de prison, parce que là, Sarkozy, il va faire appel. Hein. Donc appel, machin, on est parti encore pour des années.
Des années, je crois pas. L'appel, vous savez, ça va être dans moins d'un an.
Oui, bah, ça, on verra. Mais voilà, en fait, Chirac, détournement de fonds, emploi fictif, machin, jamais de prison. Balkany, 3 mois de prison. Ah, je suis malade, il faut que je sorte.
D'abord, ce n'était pas 3, c'était 5 ou 6. Mais effectivement, de fait, il était malade, hein, comme n'importe quelle
oui,
personne.
Oui, il était tellement malade qu'on l'a retrouvé à danser à la fête de la musique. C'est ouf. après, baladure, affaire Karachi, hop, nickel, rien. Au bout d'un moment, il faut arrêter la justice à deux vitesses, parce que le gars qui va aller voler 2 patates et 3 tomates pour donner à manger à ses gosses, le gars il va aller en prison.
Bah, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui on parle d'une personne qui a été condamnée 8 fois par l'État français, qui est un Algérien, qui a frappé un homme et il l'a laissé quasiment mort. Et en début d'émission, on soulignait précisément le contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire que la justice...
Alors ça aussi, ça m'embête un petit peu, le fait que vous appuyez sur le fait que ce soit un Algérien. Vous avez envie de donner du grain à moudre au Front
mais pas
national,
du tout. Mais pas du tout.
Qu'il soit blanc, qu'il soit Algérien... Qu'il soit
mais c'est décisif, monsieur, qu'il soit Algérien. Qu'est-ce qu'il fait sur le sol français?
Qu'est-ce qu'on s'en tape?
Mais moi, je m'en tape pas du tout.
Et qu'est-ce qu'il fait sur le sol français? Il a des papiers espagnols, d'après ce que j'ai compris.
Mais on garde sur le sol français un étranger qui est condamné 8 fois.
Monsieur Pro, vous êtes exactement comme CNews en fait, hein, la haine du musulman, la haine du machin.
Mais c'est fait, pas j'ai pas la haine de personne.
Parle de Sarkozy, vous m'emmenez sur l'histoire avec le jeune Algérien.
Je mets en parallèle par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que précisément en début d'émission, c'était...
Une conversation, monsieur Pro. Au bout d'un moment, eh ben non, je suis désolé.
Mais Philippe, vous dites la justice à deux vitesses. Vous répondez non, oui. Pas la justice à deux vitesses, puisqu'il y a une personne qui a été condamnée 8 fois par l'État français, qui n'était pas en prison et qui a failli tuer quelqu'un. Maintenant, je vous laisse parler parce que les auditeurs ont la parole.
Ben écoutez, moi, vous pensez ce que vous voulez par rapport à cette affaire. Moi, là, je ne vous appelle pas par rapport à l'affaire de ce garçon. D'accord. Maintenant, si ça avait été un blanc, un bon français de souche là, qui avait tué, est-ce qu'on aurait dit c'est un jeune de quartier blanc bien français de chez nous. Non, on ne l'aurait jamais dit. Pourquoi vous dites que c'est un Algérien?
Je vous répète, je dis parce que je dis c'est un Algérien. Enfin, vous m'avez entendu, voilà. Parce qu'il est étranger. Et je m'étonne qu'un étranger reste sur le sol français après qu'il soit condamné, après qu'il ait condamné.
Il est citoyen européen, étant donné qu'il a les papiers espagnols.
Eh bien, très bien, mais vous avez le droit d'avoir votre avis. Moi, pas le mien.
Maintenant, moi, je vous parle des politiques qui sont en train, qui ont des casseroles au cul. Mais les gars, ils font des mariages à tout va. Ils savent en donner, hein, des casseroles pour les mariages, là. Ils vont en donner des ménages, là.
Bon, en tout cas, là, vous êtes persuadé, vous, que Nicolas Sarkozy est coupable?
Mais attendez, la justice, elle le déclare coupable. Est-ce qu'après ça, le gars qui va voler 3 tomates et 2 patates...
Mais je sais, vous l'avez dit, Philippe, mais vous êtes persuadé.
Si lui prend de la peine de prison, est-ce qu'on va l'écouter sur TF1? Est-ce qu'on va l'écouter sur France 2? Non, parce que c'est un politique qui vient faire son caliméro à la télé. Je suis innocent, j'ai rien fait, la justice, elle m'en veut. Mais arrêtez vos conneries, sans déconner.
Mais il a le droit. Et puis c'est les journalistes qui l'invitent.
Mais de où les gens qui sont condamnés ou qui sont suspectés vont à la télévision pour se défendre?
Mais il y a plein de gens qui sont suspectés parfois, et puis il y a des erreurs judiciaires, et puis on les écoute.
Alors maintenant, citez-moi des gens qui sont allés à la télé, je n'ai rien fait, la justice elle est méchante avec moi, et qui ne sont pas des politiques. Allez-y, dites-moi.
Il y a des affaires de faits divers, comme ça, vous le savez bien. Mais il y avait une émission qui s'appelait Faites entrer l'accusé, et c'était ça spécialisé de faire entendre des hommes qui avaient été parfois injustement poursuivis par la police.
Non. Vous prenez une émission spécifique qui est sur la justice à un journal télévisé à une heure de grande écoute. Alors c'est comme si vous compariez un cheval de course et un âne.
Bon, en tout cas, Philippe, vous avez raison, parce que vous discutez et il faut défendre son beefsteak, si j'ose dire.
J'aimerais juste rajouter un mot. Faire ouvrir les yeux aux gens. Arrêtez de voter pour des gens qui s'engraissent sur votre dos, qui n'en ont rien à foutre.
C'est un peu démago. Mais vous votez
là,
ou pas?
Qui sont juste là pour du carriérisme et ramasser du pognon.
D'accord. Et vous votez pour qui?
Pardon?
Vous votez pour qui, vous?
Alors, moi, j'ai décidé de devenir abstentionniste.
D'accord. Et avant, vous votiez pour qui?
Alors, moi, je suis de gauche.
Vous ne vous excusez pas, c'est bien d'être de gauche.
Vous inquiétez pas, hein, maintenant.
Donc, par exemple, à la dernière élection présidentielle, vous avez voté pour qui?
Dernière élection présidentielle, je n'ai pas voté au deuxième tour.
Mais au premier tour, vous aviez voté pour qui?
Le barrage au Front National est une pure illusion.
D'accord, mais au premier tour, vous aviez voté pour qui?
La politique de Mme Le Pen.
Vous aviez voté pour qui au premier tour?
Pardon?
Vous aviez voté pour qui au premier tour?
Mais ça m'en
regarde.
Ben ouais, vous avez raison. C'est une bonne réponse.
À gauche.
Mais voilà. Vous avez. Après, attends, non, mais je ne sais pas si vous êtes.
Eu au téléphone par rapport au Black Bloc. Donc je pense que voilà, vous connaissez un peu ma position.
Donc vous êtes plutôt mélenchoniste.
Ah, du tout.
Pas du tout.
Du tout, parce que bon. Voilà, parce que Mélenchon, il a quelques côtés qui me dérangent. Il a d'accord. Des bonnes idées sur certaines choses, mais la personne me dérange.
Bon, Philippe, en tout cas, c'est intéressant et agréable de discuter avec vous. D'abord, parce qu'on peut échanger, l'échanger vif. Et puis, je pense que vous représentez beaucoup de gens, pour tout vous dire. Je pense que ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent le penser.
Il faut arrêter d'aller voter et fin à la 5e République qui donne tout pouvoir aux politiques.
Voilà. Ah bah oui, mais ça c'est le principe, une république donne le pouvoir aux politiques, à qui vous voulez le donner ?
Non, je suis désolé, la Suisse, elle est, la Suisse c'est bien une démocratie, c'est bien une république, non ? Elle donne bien le droit de vote aux gens par rapport au référendum. Les référendums en France, quand on les fait, déjà c'est exceptionnel, et en plus quand on les fait, et ben hop, Sarkozy derrière, il va signer le traité de Lisbonne.
Pas faux.
Hop, on a pas...
Bon voilà. Argument, Philippe, bon argument. Voilà. Bon, merci Philippe, rappelez-nous.
Allez.
Rappelez-nous, parce que ça donne de la vie à cette antenne et c'est bien.
Voilà, merci.
Merci. Merci Philippe. 14h19, voilà un échange sympathique et intéressant.
Philippe a presque réussi à vous convaincre.
Ah non, il ne m'a pas convaincu du tout. Mais je lui ai répondu. Hein. Mais c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec soi. Quoique, c'est pas mal de parler aussi avec des gens qui sont d'accord avec soi. Une publicité ou vous souhaitez que super. Je disserte encore ?
Non, on va faire une petite pub.
Merci.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Noël Legret est président de la Fédération française de football. Et hier, il était interrogé sur les tensions qu'il existe entre la sélectionneur Corinne Diacre et certaines joueuses. Je vous propose vraiment d'écouter ce qu'il a dit. Parce que sur le fond comme sur la forme, ça surprend. Noël Le Graët, il a dit « Aucun match perdu, voilà ce que je retiens, donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. » Voilà ce qu'il a dit, on le réécoutera peut-être tout à l'heure. Jean-Denis, bonjour Jean-Denis, qu'en pensez-vous ?
Bonjour Pascal, ça bonjour. Fait un plaisir de vous retrouver.
Eh bien moi aussi, ça me fait plaisir, vous habitez en Vendée, qu'est-ce que vous
absolument.
En pensez ?
Eh bien, écoutez, moi je pense que ce commentaire reflète tout l'intérêt, entre guillemets, que porte Noël Le Graët au football féminin. Le football féminin, je crois que c'est entre 100 et 150 000 licenciés sur 2 millions. Donc je pense qu'il s'y intéresse à hauteur de 5 à 6%. Et donc, comme il est de l'ancienne génération, comme vous avez dit tout à l'heure, il tient des propos d'un autre âge. Alors le problème, c'est qu'on est en réélection pour lui et je pense que ça va lui faire un petit peu de mal.
Je ne suis pas sûr parce que ça ne change rien d'ailleurs par rapport à son collège électoral. Mais en revanche, Frédéric Thirier, qui est le principal opposant de Noël Le Graët, il a dit « Monsieur Le Graët fait honte au football français avec des propos d'une misogynie violente, honteusement discriminatoire concernant l'équipe de France de football féminine. Où sont les valeurs du football ?» Bon, il en fait des tonnes aussi, Frédéric Thirier.
Oui, mais disons-le. Il n'a pas tort parce que moi j'ai été dirigeant dans un club féminin. Ma fille a joué pour l'équipe de France féminine, une équipe de France féminine, parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a jamais montré beaucoup d'intérêt.
Mais ça vous choque vraiment, parce ouais, qu'aujourd'hui, alors, la fameuse phrase « on ne peut plus rien dire oui. », c'est pas malin ce qu'il a dit,
mais
ça vous choque vraiment.
Mais ce qui me choque surtout, c'est son attitude aujourd'hui vis-à-vis du football amateur qui défend pas.
Ah oui, ça c'est autre chose.
Est-ce que vous l'avez entendu beaucoup parler du football amateur ? Tout à l'heure, vous aviez un échange très instructif oui. avec un autre dirigeant, un confrère. Effectivement, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose dans le football amateur. On l'entend pas beaucoup. On entend des artistes se plaindre de la fermeture des théâtres, alors qu'il y a des centaines de milliers de joueurs qui sont tous les jours empêchés de jouer dans des compétitions qui n'existent plus.
Bah merci Jean-Denis, il est 23. Merci
oui,
à vous.
Je vous laisse.
C'est le débrief de Laurent Tessier. Merci à vous.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Un jeune de 21 ans mis en examen quelques jours après l'agression d'un photojournaliste dans un quartier sensible de Reims. Le suspect de nationalité algérienne a été condamné à 8 reprises entre 2018 et 2019. Comment peut-il être encore en liberté ? Marc est policier dans l'Essonne, ça ne le surprend pas.
il y a des manques de places en prison, donc en fait, on n'applique pas les peines. Et dès lors qu'en France, vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme, bah vous ne les faites pas.
Manque de places en prison, David a poussé un coup de gueule, mais il propose une solution.
En France, on manque de tout. Vous êtes d'accord, on est une puissance, il y a quelques temps, on était encore une grande puissance mondiale. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de coudre 2 élastiques avec un morceau de tissu. Il n'y a plus de place de prison en France. Eh ben, il y a des maçons en France, hein, on peut les construire.
Et pour changer, nous avons parlé du Covid-19 aujourd'hui. Le docteur Jérôme Marty est intervenu dans l'émission avec une consultation en direct pour vous, Pascal.
Là, je suis tout seul dans le studio, je ne risque rien.
Non, tout seul, vous savez...
Et encore, je suis capable de me contaminer moi-même.
Oh, vous êtes tellement retort que c'est bien possible.
Qui sait ? Et sur l'actualité du confinement local le week-end, Christophe s'est énervé au 32-10.
Je ne regarde plus la télé parce que j'ai envie de la casser tellement on entend tout et n'importe quoi. Sur le vaccin, pas le vaccin, le confinement, pas le confinement. Et on nous traite comme des enfants. Laissez les gens décider par leur propre bon sens de s'ils veulent se confiner ou de s'ils ne veulent pas se confiner.
Vous avez réagi également à cette phrase de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, était interrogé sur l'équipe de France féminine. Et quand le sujet des tensions entre la sélectionneur Corinne Diacre et certaines joueuses est évoqué, je vous rappelle sa réponse.
Aucun match perdu. Quand elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal.
Elles peuvent se tirer les cheveux. Et là, Pascal, vous devez demander une réaction à notre réalisateur Greg Caradoni, le plus chevelu de la bande. En même temps, ce n'est pas trop dur.
Greg Caradoni, on dit
vous
pas
dites ça,
ça
parce que j'ai
2021.
Les cheveux un peu longs.
Non, mais on dit pas ça en 2021. On dit pas elles peuvent bien se tirer les cheveux, ça m'est égal. En même temps, c'est pas le drame, mais c'est pas malin quand même. Vous diriez pas ça, vous ?
Oh, jamais de la vie.
C'est cela, oui, oui. C'est cela, oui.
Ouais, et alors que vous ne deviez plus chanter, Pascal, vos envolées lyriques sont de retour.
Vous connaissiez pas cette chanson de Sheila ?
De Sheila, non.
C'est le cœur, les ordres du docteur sont qu'il me faut tes bras. Vous connaissez pas cette petite chanson de Sheila ?
Non, mais une nouvelle fois, en fait, je vois pas l'intérêt de sortir la chanson puisque vous la chantez si bien.
Il y en a pas, il y en a pas. C'était plaisir de chanter.
Plaisir de chanter, plaisir de l'écouter. Greg Caradoni, et faites plaisir de cette chanson. Sheila, sauf que la France entière s'est manifestée après cette chanson.
J'ai eu beaucoup de textos. Christian Olivier qui m'a dit c'est pas Sheila, c'est Karen Cheryl. J'ai reçu également monsieur Bernard Renault, un journaliste de TF1, qui m'a dit c'est Dorothée qui chante ça. Donc tout le monde a son avis.
Il s'agit bien de Sheila, mais coup de gueule du chef des services des sports, Christian Olivier. Nous vous parlons souvent de Christian dans l'émission. Aujourd'hui, en exclusivité, oui, mesdames et messieurs, vous allez mieux le connaître.
This is CNN Breaking News.
Je sais que l'ami Christian est, est le président du fan club de Karen Cheryl. Il a sans doute voulu placer Karen Cheryl et dont il a tous les disques chez lui, ce qui est bien normal.
Bien sûr.
Dans son garage, avec ses livres. Parce que vous savez que Christian met ses livres dans son garage.
Ah, je l'ignorais.
Ah si, il met son livre dans son garage.
Magnifique anecdote. Autre célébrité sur RTL, il reçoit désormais des centaines de mails de fans. Olivier Bois, Olivier Boy pour les intimes. Jingle, Greg. Après avoir oublié de le présenter cette semaine lors du Flash Info de 14h, vous l'attaquez cette fois-ci à la fin de son intervention.
Merci, cher Olivier Bois. Vous êtes un nostalgique peut-être de la période de Noël.
Vous voulez parler de mon pull encore, c'est ça?
Olivier Bois.
Vous savez qu'on a eu des relations difficiles ces derniers jours quand même. Vous devriez faire preuve de diplomatie.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui pourra peut-être faire oublier la polémique sur le commentaire sexy de Noël Le Graët ou en créer une autre. Hein.
Ça, je suis pas sûr que cette chanson elle pourrait passer hein, aujourd'hui.
Bon, on la passe.
Eh oui, vous avez raison, mais parce qu'elle est ancienne. Si elle était créée aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle serait acceptée. Flavie Flamand, elle est toujours acceptée. Et elle arrive à maintenant, elle a un masque panthère. Bonjour. C'est un masque panthère.
Elle sent les griffes.
Attention, madame, messieurs.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.